9h-11h,
Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. Nous sommes ensemble pendant 2 heures avec 2 sujets dans l'air du temps et vos témoignages au standard pour éclairer l'actualité. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Le standard qui est ouvert, on vous attendait maintenant.
Au 39-21, 50 centimes la minute.
Où va l'Algérie alors que Bouteflika renonce à briguer un 5e mandat? Combien de temps restera-t-il encore au pouvoir? Il y est depuis 1999 et hier, sa décision très floue a plongé le pays dans l'inconnu. Situation inédite qui inquiète aussi les familles franco-algériennes de France et Paris dans tout ça compte tenu de ses liens ancien avec Alger. On va décrypter cette situation avec nos invités qui sont là pour vous expliquer au mieux et vos témoignages, je le disais. Puis à 10h, après la poésie, hier, on s'intéresse à la dictée aujourd'hui, avec une dictée pour les nuls organisée samedi à Paris, mais samedi aussi dans de très nombreuses communes de France par différents clubs et associations, ce qui prouve que la dictée reste une passion française, vraiment, et qu'elle est assez indémodable, en dépit de vos souvenirs d'enfance, parfois contrariés. Là aussi, on attend vos souvenirs si vous le souhaitez, ou vos réactions, du moins au standard et sur les réseaux sociaux, n'oublie pas.
Oui, avec le hashtag Europe 1.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
D'abord, pour mieux comprendre la décision de Bouteflika, du président algérien, décision du moins de son entourage, car nous ne connaissons pas encore l'état de sa conscience et de sa lucidité, il ne briguera pas, en tout cas, un 5e mandat. Les élections présidentielles prévues le 18 avril sont donc reportées, sine die, on ne connaît pas la prochaine date de ces élections, ce qui, ironie du sort, prolonge de fait son 4e mandat. Bonjour Akram Belkaïd.
Bonjour.
Vous êtes fin connaisseur de l'Algérie en particulier. Vous sortez dans quelques jours aux éditions Talendier l'Algérie, un pays empêché, en sans question, et vous êtes journaliste au Monde Diplomatique. D'abord, revenir sur cette décision avec vous, qui était pour vous inévitable face à la pression populaire assez inédite.
Inévitable non, parce que finalement, c'est un statu quo. C'est peut-être une forme légale ou illégale qu'a décidé le président ou son entourage, mais on est dans un statu quo, puisque de fait, le 4e mandat est prolongé. Et si on regarde bien l'histoire récente, c'est ce que voulait l'entourage du président depuis longtemps. C'est-à-dire qu'à l'automne dernier, déjà, l'idée d'annuler les élections et d'offrir à Abdelaziz Bouteflika une sorte de prolongement de mandat de 2 ans avant une conférence nationale était déjà dans l'air. Donc finalement, même si les événements ont beaucoup impressionné les gens, même si on est très attentif à la démarche populaire, finalement, ce pouvoir n'en fait qu'à sa tête.
Ah, vous voulez dire que le pouvoir s'est aussi servi, finalement, de cette manifestation, de cette pression populaire, en quelque sorte ?
Non, il ne s'en est pas servi. Il a juste exploité la situation et il a répondu à sa manière comme s'il avait fait mine de ne pas comprendre ce qu'on lui demandait, qui était à la fois le départ, pas de 5e mandat, mais aussi de manière plus importante.
La fin d'un système.
La fin d'un système, la fin de ce régime.
Oui. On a vu d'ailleurs des résultats très contrastés en Algérie où nous rejoignons Faisal Metaoui. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Faisal Metaoui, vous êtes journaliste à TSA, qui est le premier site d'information en ligne d'Algérie, tout sur l'Algérie. Vous êtes également correspondant pour Le Parisien. On a vu, en effet, le sentiment des Algériens changer en quelques heures. D'abord, une liesse, une réaction très positive à cette décision du président de ne pas se représenter. Et en même temps, un désarroi face à ce qui peut ressembler à une mascarade, Faisal Metaoui.
Absolument, parce que dans un premier temps, c'est vrai, il y avait des jeunes qui sont sortis dans la rue le soir des annonces du président Bouteflika, parce que c'est des annonces qui ont été faites le soir.
On vous entend très mal, Faisal. Est-ce que vous pouvez peut-être vous éloigner de votre téléphone ou essayer un petit peu? La ligne est très mauvaise. Allez-y.
Est-ce que c'est mieux?
Un peu mieux.
Je disais que les Algériens, effectivement, malgré le président dans la rue le soir des annonces du président Bouteflika. Parce que pourquoi? Parce que le pouvoir en fait a joué sur les mots.
Désolée, Faisal. C'est pas assez audible. On va essayer on a eu des problèmes de ligne déjà la fois dernière avec l'Algérie. Décidément, c'est pas simple. On va essayer de vous recontacter avec une autre ligne. Mais c'est vrai que votre portable. Voilà, c'est vrai que la réaction du peuple a changé en quelques heures. Tout d'un coup, il y a eu un éclairage. Et si on nous racontait des histoires au fond?
Oui, ce qu'a dit Faisal Metaoui est totalement intéressant, c'est-à-dire très intéressant, c'était que les gens n'ont pas lu toute la lettre, ont retenu l'idée que le 5e mandat était annulé, enfin qu'il n'y aurait pas de 5e mandat, Et finalement, très vite, les gens se sont rendus compte que ce n'était pas tant le non-cinquième mandat qui comptait que la prolongation de fait du quatrième mandat. Pour une durée indéterminée. C'est-à-dire que des rumeurs ont circulé dans Alger en disant un an et demi, mais en réalité, tout ça est très confus. Tout ça est très, je dirais, il y a une terminologie suffisamment vague pour offrir le champ de toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une extension de quatrième mandat qui correspondrait à la durée d'un cinquième mandat.
Incroyable. Sans même connaître l'état de conscience, l'état de santé du président Bouteflika, vous parlez de cette lettre. C'est en effet par communiqué qu'il a annoncé cette décision. Communiqué cité par la télévision algérienne, extrait de Canal Algérie. Écoutez.
Son Excellence le Président de la République a reçu le Premier ministre Ahmed Ouyahia qui lui a remis la lettre de démission. Le Président de la République a remercié Ahmed Ouyahia pour les efforts effectués à la tête de l'appareil exécutif.
On ne sait pas comment il l'a remercié car on voit ces images sont terribles à Akram Belkaïd, des images d'un président assis sur une petite chaise, le regard hagard, vide, manifestement ne sachant pas l'état de la situation. Comment vous les avez analysées, ces images ?
Je crois que ces images et celles qui ont précédé, qu'on a eues plusieurs fois, ont contribué, je dirais, à la mobilisation des Algériens.
Oui.
Parce que trop, c'est trop. Je ne sais même pas à qui sont destinées ces images, qui le régime compte tromper avec ce genre d'images. C'est une espèce de comédie qui se joue de manière régulière, dont on ne sait pas. Alors, il y a un formalisme. Le régime algérien a toujours eu l'obsession du formalisme, être toujours dans les formes, faire semblant que les choses...
Mais là, on est vraiment dans la grossière propagande.
Mais là, qui peut y croire ? Qui peut y croire ? D'autant que vous citiez cette lettre qui a été lue à la télévision algérienne, mais quand on compare les deux lettres, on en a une il y a 10 jours, où le président expliquait qu'il était candidat et que s'il était élu, il ne ferait pas tout son mandat et qu'il démissionnerait pour une conférence nationale. Et là, on a une seconde lettre qui est rendue publique, donc lundi, où on nous explique, où il nous expliquerait qu'il n'a jamais été candidat, il n'a jamais été question pour lui d'être candidat. Donc on se demande qui a écrit ces deux lettres et on voit très bien aujourd'hui que peut-être que le président a une conscience, mais on le voit mal s'exprimer, on le voit mal prendre des décisions, et en cela, c'est déjà très grave.
Elles sont authentiques, en tout cas, ces images pour vous. C'est bien lui il y a quelques jours.
Franchement, je ne suis pas spécialiste de ce genre d'images et de vérifier si les montages sont vrais ou faux, mais en tout cas, je vois passer beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, notamment des couleurs de cravate, notamment des raccords, qui donne à penser qu'on est tout de même dans des constructions malhabiles.
Incroyable. Sachant que la dernière parole publique, écoutez bien, du président Abdelaziz Bouteflika, entendue par les Algériens, remonte au 8 octobre 2014. Ça fait presque 5 ans que le peuple algérien n'a pas entendu son président s'exprimer en public.
Mais d'ailleurs, même pour le cinquième mandat, on se demandait comment il allait faire pour prêter serment. Imaginons qu'il se soit présenté, que les Algériens ne soient pas sortis dans la rue, il aurait été obligé, parce que la loi oblige qu'il prête serment, et on se demandait déjà comment il allait faire. Et déjà, son entourage, la clique de serviteurs et de domestiques qui est autour de ce président, laissait entendre que finalement, le serment n'était pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on viole allègrement la Constitution et toutes les dispositions légales, parce que, encore une fois, pour revenir au début de l'émission, le report des élections, c'est anticonstitutionnel.
Oui.
Le président n'a pas le droit, tout président qu'il est, il n'a pas le droit de reporter les élections, de les annuler. Il n'a pas non plus le droit de décider d'une extension de son mandat.
Julie,
qui parle en son nom ? Il y a une personne qui prend des décisions, puisque lui ne parle pas.
Bien entendu.
On ne sait pas dans quel état il est.
Bien entendu. Et là, on sait très bien que son frère joue un rôle assez important.
C'est Saïd
Bouteflika. Il joue un rôle assez important. On pense aussi que le chef d'état-major, Gaïd Salah, joue aussi un rôle important. On sait aussi qu'il y a une poignée de médecins qui entourent le président et qui souvent parlent en son nom et transmet certaines de ce qui seraient ses directives. Mais pour dire la vérité, beaucoup d'Algériens ignorent totalement comment ça se passe. On est dans une situation ubuesque, c'est du jamais vu. Il y a eu des pays qui ont connu des situations comparables avec des dirigeants plus ou moins absents. On se souvient de la maladie de Franco, on se souvient de ce qui s'est passé avec l'ex-URSS. Bah,
Cuba aussi.
Mais là, au moins au Cuba, les choses étaient claires. On savait qu'il était malade.
Et que le relais était pris par le frère. Ouais.
Voilà, et qu'il allait avoir un relais. Là, on est avec des décisions fondamentales. Et donc, dans un pays qui, une espèce de théâtre d'ombre, on veut faire croire à la normalité, on veut faire croire que le président a une activité normale. On a tout de même des gens qui montent au créneau, qui sont membres de la majorité présidentielle, qui essaient de convaincre vaille que vaille les Algériens que le président travaille et a toutes ses capacités, mais personne n'y croit en réalité.
Akram Belkaïd est avec nous pour essayer de décrypter cette situation si complexe du fait de son caractère inédit, justement, cette élection annulée, reportée, sans date ultérieure pour l'instant. Nous essayons très difficilement de joindre l'Algérie et j'avoue que c'est la deuxième fois qu'on a des difficultés. Les lignes sont très complexes, c'est dommage, mais Faisal Metaoui est avec nous, journaliste à TSA, on essaye de le récupérer. Et Soufiane Guesma, qui est binationale, qui est en voyage en Algérie, qui a participé à toutes les manifestations, voulait aussi nous donner son sentiment. Si vous êtes franco-algérien préoccupé par cette situation, n'hésitez pas à nous appeler au standard d'Europe 1. Depuis la France, manifestement, ça passe mieux. N'hésitez pas, on vous attend.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le président Bouteflika, 82 ans, renoncerait donc à un cinquième mandat après 20 ans passés à la tête de l'Algérie. Dans le doute et la crainte, nous posons la question à nos invités. Quelle Algérie demain ? Wendy Bouchard.
Dans une situation inédite que vous nous avez bien décrite, Akram Belkaïd, journaliste au Monde Diplomatique et auteur de L'Algérie, un pays empêché en 100 questions, livre à paraître dans quelques jours aux éditions Talendier. Nous retrouvons depuis l'Algérie Faisal Metaoui, journaliste à TSA, premier site d'information en ligne, tout sur l'Algérie. Faisal Metaoui, le clan au pouvoir à Alger a pu se bercer peut-être un instant de l'illusion que le renoncement du président lui permettrait de gagner du temps. Sauf que dans la rue, c'est loin d'être gagné, c'est même raté pour les autorités, car la pression populaire est toujours là.
Oui, absolument, et même un appel est lancé pour qu'il y ait une marche le vendredi 15 mars contre les nouvelles annonces du président Bouteflika, parce qu'hier on a vu effectivement des étudiants sortir dans la rue avec des enseignants, mais également des avocats pour dire que finalement il y a un 4,5, c'est-à-dire un prolongement du quatrième mandat.
Parce
que
oui,
le président Bouteflika, vous l'avez déjà évoqué,
oui,
a renoncé au cinquième mandat. À un moment donné, les gens n'ont retenu que ça, c'est-à-dire que le président ne se présente pas pour le cinquième mandat. Mais en même temps, dans la lettre de cet engagement pratiquement, et entre parenthèses, le président a repris exactement les mêmes propositions faites lorsqu'il a annoncé sa candidature le 3 mars dernier, oui, au niveau du Conseil constitutionnel. La lettre a été lue à sa place par son directeur de campagne, qui,
oui,
s'appelle Abdelrahim Zahlan. Mais quand on lit la lettre dans le détail, on constate que finalement le président prolonge son mandat sans préciser de date. D'ailleurs, il y a eu hier une pancarte des jeunes étudiants en disant nous voulions des élections sans Bouteflika, on a Bouteflika sans les élections. Et donc ça résume
c'est
tout.
Terrible, c'est
oui,
terrible.
Absolument, ouais. Ça résume tout. Le président reste, il n'a pas précisé de date, il a annulé en fait les élections, c'est pas un report, puisque il n'y a pas de, on ne sait pas quand est-ce que ces élections auront lieu, conférence nationale, etc. C'est-à-dire plusieurs propositions, mais en fait, et la presse le dit largement, ainsi que l'opposition, la presse et l'opposition accusent le pouvoir et le président d'avoir violé la Constitution.
Oui,
Le report de l'élection présidentielle,
oui,
n'est pas précisé et n'est pas écrit nulle part qu'il y a un report sans en état de guerre. Et deuxièmement, c'est la prolongation du mandat présidentiel n'existe nulle part dans la Constitution algérienne.
Ce que nous disait aussi très bien Akram Belkaïd, Faisal Metaoui, en 2011, il y a eu le vent du printemps arabe qui a soufflé aussi quand même sur l'Algérie. Et à ce moment-là, le gouvernement a acheté quelque part la paix sociale en injectant des milliards de dollars pour mieux indemniser les fonctionnaires, pour aider la jeunesse aussi. Ça a calmé les choses. Or, aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans la même situation. Les citoyens dont vous décrivez l'engagement ne sont pas dupes. Pour eux, c'est la fin d'un système là qui doit arriver.
Oui, absolument. On sent qu'il y a un agacement généralisé. Parce qu'on l'a vu dans les marches du 1er mars, du 22 février et du 8 mars, il y avait même dans les marches des grands-pères, des enfants,
oui,
des familles entières sont venues et les gens disent la même chose. Et c'est pas de la haine à l'égard du président Bouteflika, au contraire. Le président, les Algériens disent qu'il est vieux, qu'il est malade et qu'il est temps qu'il se
retire. C'est ça, qu'il a fait son temps.
Dignement.
Oui.
Oui, dignement, c'est-à-dire qu'on ne va pas le chasser comme l'ont fait les Libyens pour Kadhafi, mais visiblement, le pouvoir de l'Algérie ne peut pas acheter la paix sociale parce qu'il n'a pas les moyens financiers. Parce que vous savez que l'Algérie connaît une crise économique et financière depuis 2014 à cause de l'effondrement des cours pétroliers. L'Algérie est un pays qui dépend à 95% de l'exportation du gaz et du pétrole. Le pouvoir a recouru à la planche à billets, c'est-à-dire la création monétaire, ce qui va encore compliquer la situation économique. Donc, le pouvoir, ce n'est pas 2011. À l'époque, on avait parlé des émeutes de l'huile et du pain.
Oui, très différent.
Bien sûr, ce n'était pas vrai. Oui. On a voulu caricaturer cette contestation. Mais là, il y a aussi un niveau de conscience politique très élevé chez les Algériens et c'est partagé par toutes les catégories sociales parce que tout le monde se mêle. Aujourd'hui, par exemple, il y a un appel pour que les syndicats de l'éducation vont se mettre à la grève et ça concerne des milliers et des milliers de fonctionnaires.
C'est ça qui est très intéressant aussi. Je vais vous faire réagir après, Faisal Metaoui, après une petite pause. Juste un mot à Akram Belkaïd sur la fissuration des poches de soutien, on va dire, du système de Bouteflika. Parce que là, on voit que, en effet, les fonctionnaires, les médecins, vraiment l'entourage qui était des hautes personnalités, commence à douter justement de la pertinence de ce système et de ce régime aujourd'hui. Ça craque d'un peu partout cet édifice.
C'est ce qui caractérise souvent les régimes autoritaristes, pour ne pas dire des dictatures. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les institutions, les organisations, les piliers sur lesquels reposent ces régimes-là se fissurent. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas d'étanchéité totale entre les gens qui la composent et le reste de la société. Les médecins, les avocats, ou même pour prendre un exemple, je dirais, très symbolique, l'Organisation nationale des Moudjahidines, c'est-à-dire les anciens combattants de la guerre de libération, de la guerre d'indépendance, qui sont quelque part un pilier à la fois idéologique, de propagande pour le régime de tout temps, la fameuse famille révolutionnaire, eux-mêmes aujourd'hui se distancient parce qu'ils ne peuvent pas ne pas comprendre que le ras-le-bol est généralisé et que quelque part ils se couperaient de la société s'ils continuaient à soutenir coûte que coûte ce régime. Je dirais néanmoins qu'on commence à revoir apparaître certaines têtes. Dès lors que le président a promis une vague conférence nationale, je dirais la propagande recommence à pointer le bout du nez, mais de manière timide. Donc il va être très intéressant de suivre la situation au cours des prochains jours, des prochaines semaines.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de se lire que les citoyens algériens ne sont pas dupes de la situation. Même si on leur vend une deuxième république, une conférence nationale, etc., il faudra leur préciser le détail parce que ça passera pas si facilement que ça. On rejoint dans un instant Faisal Metaoui et votre lecture aussi des choses depuis la France, Akram Belkaïd. Le report des élections en Algérie, c'est un fait peut-être, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Situation inédite. Et qu'est-ce que cela provoque aussi comme sentiment pour les franco-algériens que vous êtes ? N'hésitez pas à réagir. Julie vous attend. Standard.
Au 39-21. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Les élections en Algérie, qui devaient avoir lieu le 18 avril, vont laisser place à une période de transition dangereuse pour l'espoir d'un renouveau. Car si Bouteflika est mourant, son entourage, lui, a un sens politique aiguisé et doit préparer la suite.
Oui, et on fait des allers-retours entre Paris, Alger, Tipaza, Constantine ce matin avec à la fois nos invités sur place en Algérie et du côté français, Akram Belkaïd qui est avec nous en studio. Je voudrais que vous réagissiez sur les propos de Faisal Metaoui, qui est journaliste à Tout sur l'Algérie, là-bas, depuis Alger, qui nous disait, et c'est vrai qu'on l'a vu aussi dans les manifestations, des Algériens très civiques, assez calmes finalement, qui n'ont pas l'intention de faire tomber Bouteflika comme les Libyens souhaitaient la chute, par exemple, de Kadhafi. On est dans un rapport très particulier à Bouteflika, malade, fatigué, c'est vrai, mais comment vous expliquez ça ?
Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord le fait qu'on n'accable pas quelqu'un qui est malade, aussi responsable soit-il de la situation. Hein. On ne va pas tout de même le disculper, mais effectivement, ce qui frappe, c'est que dans les cortèges, dans les manifestations...
C'est pas à mort Bouteflika, quoi.
Non. Et je pense que les gens ne le toléreraient pas et que, comme il y a une certaine forme d'autodiscipline, Faisal l'a bien dit, sur ce caractère à la fois pacifique, organisé, civique de cette manifestation, qui est, à mon avis, quelque chose d'assez important parce que cela veut dire aussi, c'est l'expression d'une certaine maturité politique. Et puis, les Algériens ont appris du passé. On a connu un premier printemps à la fin des années 80 qui a fini très mal avec la décennie noire. On a regardé de très près les printemps arabes, ce qui s'est passé chez le voisin libyen, ce qui s'est passé un peu plus loin chez les Syriens, ou même les turbulences qui continuent d'affecter la Tunisie. Et donc, il y a une espèce de, je dirais, de sentiment qui consiste, une dualité assez intéressante, qui consiste à dire on veut le départ de ce régime, ça suffit, Barakat, il y en a marre, voilà. Donc, c'est toute la population qui le dit, c'est pas simplement une poignée d'intellectuels et de militants qui le disaient déjà en 2014, mais qui n'avaient pas réussi à créer un mouvement de fond, parce qu'ils s'opposaient déjà au quatrième mandat. Donc, on veut que ce régime s'en aille, mais en même temps, il y a une obsession assez importante qui est de préserver les murs de la maison. C'est-à-dire qu'on ne veut pas d'un mouvement qui pourrait déraper de nouveau et entraîner le pays au bord de l'abîme.
Et ça, c'est très fort, Faisal Mettaoui, ces leçons de l'histoire, comme les décrit Akram Belkaïd, et que vous avez constaté dans ces cortèges entre 4 et 6 millions d'Algériens mobilisés depuis plusieurs jours maintenant.
Oui, absolument. On a vu que les Algériens respectaient les règles d'une marche pacifique, respect pour les personnes âgées, respect même, je l'ai vu moi-même à Alger, lorsque le cortège passe devant une clinique ou un hôpital, on se calme et on marche silencieusement.
Ouais,
on respecte même les malades.
On a des leçons
à tirer.
Vu
ça. Absolument, on n'a jamais vu ça. Et on a vu aussi des jeunes filles offrir des fleurs aux policiers. Et c'est vrai que la police n'a pas usé de beaucoup de force, de violence par rapport au passé, où il était pratiquement interdit de manifester à Alger ou ailleurs. La police laisse faire, probablement qu'elle a reçu des instructions. Et donc la population se comporte d'une manière très civilisée avec tout le monde, avec les jeunes filles. Le 8 mars, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes dans la rue de tout âge. On n'a pas vu une femme harcelée ou une femme se faire insulter, etc. Des femmes voilées, des femmes qui ne sont pas voilées, etc. Et donc je pense que les Algériens ont donné une leçon au pouvoir, qui a toujours utilisé la manière forte, qui a toujours empêché les Algériens de s'exprimer, en s'appuyant toujours avec des arguments sécuritaires. Et là, les Algériens ont fait tomber ça, parce que le mur de la peur a été brisé d'une manière claire. Et les Algériens aussi, comme l'a dit Akram, ont retenu les leçons du passé. Ils ont retenu la leçon des années 90, les violences des années 90, même si au début des années 90, la transition démocratique avait commencé, elle a été brutalement arrêtée par les militaires. Dans les années 80 aussi, il y a aussi des manifestations, et les Algériens ont retenu aussi les leçons de ce qui s'est passé dans la région arabe, puisque nous avons la Libye qui est notre voisin, où la situation reste toujours chaotique, il n'y a pas de gouvernement qui peut fort, disons, la situation en Tunisie, en Syrie et ailleurs, et le pouvoir a tenté de jouer cette carte en disant attention, si vous sortez dans la rue, si vous vous demandez le départ du régime, il y aura la Syrie. On a même écouté l'ancien Premier ministre Ahmed Yahya qui disait, en parlant des roses distribuées dans les rues d'Alger, que attention, en Syrie, ça a commencé un peu avec les roses. Et le résultat, la contestation est toujours là et Yahya est parti, puisqu'il a été débarqué par le Premier ministre, par le président Bouteflika.
Oui, il y a une intimidation, mais qui n'intimide pas justement le peuple en marche. Faisal Mettaoui, on reste encore avec vous quelques instants. On vous retrouve à Alger ainsi que Soufiane qui est avec nous, qui n'est plus avec nous en ligne, mais promis, on va vous retrouver. Akram Belkaïd, journaliste au Monde Diplomatique, nous éclaire aussi sur cette transition du moment. Quel scénario se dessine? On va en établir 2-3 avec vous, justement, pour comprendre en quoi la grande manifestation annoncée ce vendredi peut être charnière. A tout de suite avec Riyad, qui nous joint également au standard en ce moment.
Scénario se dégage en Algérie depuis l'annonce du président Bouteflika de renoncer à un cinquième mandat.
Oui, Julie, c'est la question que nous relayons avec nos invités. Quelle Algérie demain? Quels doutes et quelles craintes avec des paroles de manifestants attendues dans un instant? Le président Bouteflika, 82 ans, qui renonce donc à un cinquième mandat après 20 ans passés à la tête de l'Algérie. On aurait pu de loin, Akram Belkaïd, se dire le pouvoir cherche à gagner du temps. C'est plutôt habile, mais ça ne passe plus, ça ne place plus du tout. Faisal Mettaoui nous l'a bien dit depuis Alger. J'ai une question de Marc de Sarrebourg à vous livrer, Akram Belkaïd. Question à laquelle, dit-il, on ne répond pas. Monsieur Bouteflika aurait-il eu la majorité aux élections s'il s'était représenté?
Alors,
et aurait-il été réélu?
C'est une question qu'on pose souvent en France parce qu'on croit ou on feint de croire que le scrutin aurait été organisé de manière libre et transparente, ce qui n'est pas le cas. Alors, bien entendu, si les élections avaient eu lieu, nous aurions eu une victoire de Bouteflika, lequel pouvait compter sur un socle toujours très fidèle au FLN, qui aurait voté pour lui, quelle que soit la situation, mais ça n'aurait pas donné la majorité, et certainement pas la majorité absolue. Donc les urnes auraient été bourrées comme elles l'ont été par le passé. Les chiffres de participation auraient été augmentés pour donner une espèce d'aperçu décent en faisant croire que les Algériens se sont déplacés aux urnes. Donc oui, il aurait été élu, mais en sachant tout de même que ces élections n'auraient pas été, je dirais, honnêtes et transparentes comme elles ne l'ont pas été par le passé.
Oui, on n'aurait peut-être pas eu la même réaction populaire, elle aurait peut-être été probablement plus tendue. Aujourd'hui, on a une pression de la rue qui est importante, cela dit, 4 à 6 millions de citoyens mobilisés et qui restent déterminés pour construire une vraie démocratie. Soufiane Guesma, on vous retrouve, vous y étiez aussi, vous êtes franco-algérien, ça fait 2 mois que vous êtes en Algérie, vous êtes allé visiter votre famille et vos amis, et vous êtes allé d'Alger à Tiemcen dans ces cortèges. Bonjour Soufiane.
Oui, bonjour. En effet, alors ça fait plus de 3 semaines que je suis en Algérie, et en effet j'ai pu assister à la grande manifestation de Alger du 1er mars, ainsi que celle de Tlemcen qui avait lieu une semaine après. Les manifestations en Algérie ayant lieu majoritairement le vendredi, qui est le début du week-end en Algérie. Et c'est vraiment impressionnant à voir la jeunesse algérienne qui se mobilise, qui est pacifique, qui est civique. C'est assez bluffant.
Comme vous connaissez la situation en France avec nos moments critiques à nous et vous êtes là dans une phase charnière en Algérie, c'est intéressant aussi pour vous comme binational. Vous comprenez bien que c'est plus un système qu'un homme dont le peuple algérien demande la fin aujourd'hui avec une grande détermination.
Bien sûr, je pense que le peuple algérien l'a compris aussi, que le combat va être très long, que là on se bat pour enlever une tentacule, mais qu'il y a la pieuvre qui est installée, qui est tout à fait le système, qui est corrompu et qui règne depuis l'indépendance. Et donc ça va être très dur et je pense qu'il va y avoir encore des mois et des années de combat de la part du peuple algérien pour arriver à une véritable démocratie au sein de cette société.
Ah oui. Et comment vous avez réagi, vous, avant-hier avec vos proches à cette annonce prêtée à Abdelaziz Bouteflika, qui donc ne se représente pas. Quelle crainte derrière.
Qui se représente pas, oui, de façade.
De façade, oui.
Dans un premier temps, comme beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, je pense qu'on a eu cette sensation de joie d'avoir obtenu une première victoire. Et très rapidement, on a déchanté puisqu'on a compris que c'était une mascarade, que finalement il allait prolonger son 4e mandat présidentiel de 6 mois à 1 an. Donc exactement ce qu'il proposait de faire il y a une semaine avant. Donc ce qui lui permet de continuer à être au pouvoir. Les personnes qui sont à son entourage de continuer à spoiler le pays. Et puis lui, son grand rêve, c'est de mourir en président, d'être enterré à la nouvelle mosquée d'Alger. C'est totalement irresponsable, que ce soit de ses proches ou de lui, ça laisse le pays dans l'impasse.
Oui, en tout cas, le pire des scénarios est celui qui est en train de se dessiner. Pour vous, Faisal Metaoui, journaliste à TSA, c'est un 5e mandat de fait sans passer par l'élection. Et là, qui pourrait vraiment attiser la colère de la rue?
Oui, la colère de la rue se poursuit, et le pouvoir, je pense, à mon avis, va peut-être revoir le véritable test pour tout le monde, sera ce vendredi 15 mars,
parce
qu'il y a un appel qui circule pour une marche massive, pour ne pas dire plus importante que celle du 8 mars, et là, le pouvoir sera obligé d'écouter les clameurs de la rue, parce que on a constaté que l'alliance présidentielle, c'est-à-dire cette alliance qui regroupe un certain nombre de partis dans le FLN, garde un curieux silence. Hier, il y a de timides réactions disant que voilà, c'est des bonnes solutions, c'est une période de transition, etc., on est d'accord avec la conférence nationale, inclusive et indépendante, etc. Mais disons que le pouvoir reste, lui aussi, il suit un peu ce qui se passe dans la rue et la contestation se poursuit avec les manifestations des avocats, des juges qui se mêlent, même les imams. Les imams qui habituellement sont très très réservés se sont mêlés de la contestation parce qu'ils ont dénoncé les instructions qu'ils reçoivent. Vous savez que le vendredi, il y a la grande prière, il y a le prêche du vendredi et le ministère des Affaires religieuses leur envoie des instructions pour leur dire attention, il faut critiquer ça, il ne faut pas dire que il ne faut pas pousser au chaos parce que sortir de la rue c'est pas bien, etc. Les imams se sont même révoltés sur ça et donc on a pratiquement toutes les catégories sociales qui sont contre ces instructions, contre la manière avec laquelle le pouvoir se poursuit. Mais la balle est également pas uniquement chez le pouvoir, mais elle est chez l'opposition, parce que beaucoup de monde aujourd'hui, dans la presse, les commentateurs, les éditoriaux, souhaitent que l'opposition capitalise ce qui se passe. On prend un projet alternatif, un projet de changement. C'est vrai qu'une partie de l'opposition propose une constituante, une assemblée constituante, une autre pense qu'il faut aller vers une période de transition qui sera gérée par un comité de sages, qui pour pourrait faire sortir de l'Algérie donc de cette impasse. Mais l'opposition est un peu éparpillée. Est-ce que son défi, et le véritable défi justement, c'est de se rassembler? Et d'autres analystes pensent que ce mouvement populaire doit à un moment donné être encadré, avoir un contenu politique pour faire le changement. Parce que manifester c'est bien, mais offrir une alternative c'est bon. Or le pouvoir joue également sur ça en disant voilà, on ne sait pas qui lance les appels, qui sont ces inconnus qui poussent. Qui pousse les Algériens vers la rue, etc. Et donc, il fait peur, il recycle la théorie de la peur. Et si la contestation, à mon avis, se poursuit les prochaines semaines, je pense que le pouvoir sera amené à revoir ses calculs, à revoir même ses décisions, parce qu'on a vu, curieusement, le président lui-même dire qu'il n'a jamais été de son intention de se porter candidat à l'élection présidentielle. Or, il avait dossier dit tout le contraire. Déposé. Absolument, le dossier a été déposé au Conseil constitutionnel.
Complètement, et on a pu lire ses propos. Faisal Mettaoui, vous parlez de l'opposition, on va y revenir juste après la pause, dans cette opposition qui critique le tweet d'Emmanuel Macron évoquant une nouvelle page pour la démocratie algérienne. C'est un sujet sur lequel on va vous faire réagir. Juste un dernier mot avec vous, Soufiane. Est-ce que vous allez participer vendredi à cette manifestation massive attendue justement en réaction à cette annonce présidentielle?
Oui, bien sûr que je vais y participer. J'étais à celle d'Alger dans un premier temps, celle de Tlemcen, et maintenant je vais revenir à Alger, en effet, pour y participer. C'est important, puisqu'il faut montrer que le peuple algérien n'est pas naïf à ce coup de mascarade qui a été organisé par le pouvoir, donc c'est important de manifester. Et je tiens juste à dire quelque chose par rapport aux réactions qu'on peut entendre en France de la part de l'extrême droite, craignant une déferlante migrante ou autre.
Il faut savoir, en tout cas... Les propos de Marine Le Pen, voilà, craignant... demandant au gouvernement de suspendre les visas des Algériens qui pourraient se précipiter en masse dans le pays.
C'est ça, qui vague sur son traditionnel business de la haine, et en particulier de l'Algérie, en faisant appel un peu au bas esprit, certains nostalgiques du colonialisme. Sur celui-ci, il faut savoir, en tout cas à ma connaissance, que depuis le début de ce mouvement pacifique et civique en Algérie, de la part de la jeunesse algérienne, il n'y a pas eu un seul halaga. Les halagas, ce sont les personnes qui partent en bateau de fortune pour immigrer clandestinement en Europe, et il n'y en a pas eu un seul. On a même vu des inscriptions en Algérie où c'est indiqué « c'est la première fois de ma vie que je n'ai pas envie de te quitter ». Donc il y a un véritable espoir de la jeunesse algérienne, et je pense que ça va continuer, je l'espère de tout mon cœur.
En tout cas, vous relayez très bien cet espoir comme binationale, Soufiane Guesma. Merci beaucoup pour ces mots, et on entendra d'autres réactions dans un instant, peut-être celle de Riyad. Je garde avec nous Faisal Mettaoui. Abdelkader veut réagir, lui nous appelle de Ruelle Malmaison et veut réagir aussi sur le tweet d'Emmanuel Macron. Décidément, on vous laissera leur répondre à ses auditeurs, Akram Belkaïd. À tout de suite sur Europe 1.
Nous parlons de la crise en Algérie et ses conséquences sur ses relations avec la France.
Oui, absolument, car le président algérien a dit ne pas briguer un cinquième mandat, mais on est pour l'instant dans un report sans date ultérieure de cette élection présidentielle. Le pire des scénarios, on le disait avec nos invités, est un cinquième mandat sans passer par l'élection. Grande manifestation à Alger, notamment ce vendredi 15 mars, avec beaucoup de réactions très très belles, très très saines aussi, nous confiait Soufiane, cette jeunesse qui ne veut pas quitter le pays, au contraire, qui est fière de prendre en main son destin et qui veut créer les conditions d'une démocratie. Pour ses relations avec la France, c'est intéressant parce que nous avons eu une déclaration. On est toujours à Akram Belkaïd entre sa difficulté de dire et d'être dans l'ingérence. Emmanuel Macron, il a salué hier à Djibouti la décision du président Bouteflika de signer une nouvelle page de l'histoire algérienne, et il a salué la dignité avec laquelle la population, en particulier la jeunesse, s'est exprimée. Il devait le faire, le président Emmanuel Macron, ou il aurait dû s'abstenir?
Je pense qu'il répondait à une question, si je ne me trompe pas.
C'est vrai, c'est une conférence de presse. Oui.
Donc oui, il est obligé de le dire. Alors maintenant, il y a la manière de le dire, et surtout, éviter de donner l'impression qu'on donne un quitus à ce qui se passe en ce moment, et donc à cette entourloupe, pour reprendre ce terme, constitutionnelle. Et beaucoup d'Algériens ont tiré la conclusion que finalement, Paris, les autorités françaises, donner une espèce de soutien plus ou moins explicite à la décision d'Abdelaziz Bouteflika de prolonger son mandat. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui passe assez mal. Ceci étant dit, quelles que soient les déclarations des autorités françaises, il y aura toujours des réactions assez, je dirais... vive côté algérien.
Oui, parce qu'évidemment, on est dans un rapport passionné au sujet. Abdelkader, vous êtes avec nous au 3921 depuis Ruelle Malmaison. Bonjour à vous.
Bonjour Wendy Bouchard, bonjour à vos invités.
Merci, nous vous écoutons Abdelkader, parce que vous voulez réagir justement à cette intervention du président Macron.
Tout à fait, justement par rapport à ce tweet, moi j'étais hier, je l'ai pris en live, et pour vous dire, j'étais quasiment choqué, j'étais outré de ce tweet qui, dans son fond, en fait, soutenait la décision de Bouteflika de rester encore un an ou deux ans, ou je ne sais même pas combien. Hein. Enfin, le président ne donne aucun délai pour toutes ces mesures qu'il prononce. Donc, je pense que le président Macron, en saluant cette décision et en disant que Bouteflika va signer une nouvelle ère, je n'ai jamais vu de dictature signer une nouvelle ère démocratique. Je ne considère pas Bouteflika comme, en tant que personne, comme dictateur, mais je pense que le régime, et que j'appelle la mafia qui est autour de lui, c'est vraiment plus qu'une dictature. Donc, saluer une telle décision et dire que Bouteflika va signer une nouvelle ère pour l'Algérie, pour la démocratie en Algérie, je trouve ça scandaleux.
Vous avez quel âge, Abdelkader ?
35 ans.
Ouais, donc faites partie de cette jeunesse qui espère un changement, évidemment. Je précise quand même qu'Emmanuel Macron a ajouté qu'il espérait une transition d'une durée raisonnable. Voilà, pour être tout à fait.
Donc pour moi, excusez-moi, je vous coupe la parole, mais pour moi, le fait de parler d'une transition rapide explique tout à fait le fait que Macron sait qu'il s'agit là d'un enjeu de temps.
Oui, oui, absolument, qui gagne du
pour
temps.
Pour les Algériens et pour ce pouvoir, donc je pense sincèrement, et ça me choque, que Macron soutient ce système mafieux.
Abdelkader, votre intervention est intéressante et va faire réagir à Alger Fessal Metaoui, parce que vous avez publié sur TSA, votre site d'information en ligne, tout sur l'Algérie, un article sur le sujet, justement, sur cette diplomatie française critiquée. Ce tweet d'Emmanuel Macron qui évoque donc une nouvelle page pour la démocratie algérienne, et ça fait réagir l'opposition en Algérie, Fessal.
Absolument. La déclaration de M. Macron est critiquée, pas uniquement par la presse et sur les réseaux sociaux. Oui. Et on dit même que le vendredi 15 mars, il y aura des slogans contre la France, ce qu'on m'a dit ce matin. Et vous savez que le standard de l'Élysée est en train d'être bombardé par les Algériens, bombardé par des appels téléphoniques. Ils l'ont déjà fait lorsque le président Bouteflika était à l'hôpital, aux hôpitaux universitaires de Genève.
Oui.
Et là, ils le font pour l'Élysée, pour dire qu'on nous voulons parler avec M. Macron, nous voulons lui dire que cette déclaration, on ne les a pas appréciées, etc. Et je pense que, à mon avis, le président Macron aurait pu éviter de faire des déclarations par rapport, parce que c'est un processus qui est en cours, on ne sait pas quel est l'aboutissement, où on va tant. Et aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de critiques à l'égard de cette position française par rapport à la situation en Algérie.
Ben voilà, Abdelkader, votre sentiment est partagé aussi de l'autre côté de la Méditerranée. On se retrouve dans un instant pour faire le tour de cette situation inédite et charnière en Algérie. Et maintenant, que va-t-il se passer ? Akram Belkaïd est avec nous, journaliste au Monde, diplomatique. Son ouvrage sort très bientôt aux éditions Talendier. Si vous l'écoutez, vous pouvez déjà le commander. L'Algérie, un pays empêché en 100 questions. A tout de suite sur Europe 1. Merci pour vos appels.
Sur la situation en Algérie dont nous parlons jusqu'à 10h, ce tweet d'un auditeur, Jean Seb. N'y a-t-il pas un risque, une peur que les islamistes, qui ont déjà fait tant de mal à l'Algérie par le passé, reprennent la main dans cette crise politique ?
Oui, on n'a pas parlé des islamistes, Akram Belkaïd, dans cette histoire.
Alors, il faut bien comprendre que le champ politique en Algérie est verrouillé, que les partis qui sont sur le devant de la scène sont tolérés par le régime, instrumentalisés, et que pour le reste, il n'y a pas quasiment une interdiction de militer, d'activer, de travailler. Donc aujourd'hui, on a du mal à avoir une vraie cartographie de quelles sont les forces en présence. L'islamisme n'a jamais disparu de la société algérienne. C'est un courant politique, c'est un courant, je dirais, presque social et culturel. C'est effectivement un point d'interrogation. Je ne pense pas, pour ma part, que demain, il pourrait constituer une force dominante, parce que quelque part la société s'est immunisée contre le radicalisme, même si c'est une société conservatrice qui a un regain de religiosité. Donc je pense que aussi la peur de l'islamisme, la crainte de les revoir revenir au premier plan ne doit pas justifier un non-soutien à l'élan populaire qui existe en Algérie.
Oui.
L'Algérie doit suivre son chemin vers la liberté, quels que soient les risques qui sont agités ici et là. Voilà la vraie donnée du problème.
C'est le sentiment que vous avez aussi, Reda, vous qui nous appelez de Montreuil, donc de la France, au 39-21, bonjour. Bonjour.
Bonjour, je salue les invités. Du coup, je rejoins en partie l'analyse de M. Krambel-Kaïd. Je veux dire que le but de mon appel, maintenant, il faut qu'on arrête de réagir par rapport à... Nous, personnellement, en tant qu'Algériens, j'attends plus rien de ce pouvoir. Il nous a prouvé qu'il n'est même pas capable de faire ce qu'il faut pour se maintenir au pouvoir. Ils avaient une autoroute pour faire ce qu'ils voulaient. Ils ont atomisé toute la société, mis au pas tout le monde, partis politiques, corps intermédiaires et toute initiative privée. Ils avaient tout devant eux. Ils ont réussi à s'auto-bloquer eux-mêmes.
Oui.
Le but de mon appel, c'est surtout d'essayer de voir avec M. Akram Belkaïd, que je connais un petit peu par l'intermédiaire des articles que je lisais dans le quotidien d'Oran, excusez-moi, c'est qu'on arrête de réagir et d'attendre à ce qu'ils vont faire. C'est surtout, je demande ce qui manque actuellement en Algérie, c'est les intellectuels. Moi, j'ai le même âge que M. Belkaïd et je veux dire que cette jeunesse, elle nous a surpris. Je suis encore agréablement surpris de ce qu'ils nous ont montré par des slogans. Par contre, il va falloir, comme l'a relevé l'un des interlocuteurs un peu avant, d'essayer de recadrer ça, pas la récupérer, de recadrer, de donner un contenu politique.
Oui, structurer. Structurer la contestation. J'aimerais que vous échangiez avec Faisal Metaoui, qui est à Alger, journaliste à TSA, sur la place des intellectuels aussi pour soutenir l'élan d'espoir soulevé par la jeunesse, Faisal Metaoui. Est-ce qu'ils sont là? Oui.
Oui, ils sont là, mais bon, il faut dire qu'ils sont arrivés tardivement, parce que c'est vrai que ceux qui mêlent actuellement la contestation sont les étudiants, les universitaires, les journalistes, les artistes, les avocats, et même les juges, et maintenant il y a aussi les imams. Donc disons que c'est une élite qui s'est dégagée, elle est éparpillée, il est vrai, parce que le pouvoir algérien, le pouvoir en place a toujours fait en sorte que l'élite intellectuelle soit éparpillée, ne se rassemble pas, etc.
Oui.
Et Akram a parlé des champs politiques verrouillés, c'est vrai. Depuis 20 ans au moins, il est interdit de marcher dans la rue, il est interdit de parler à la télévision publique, il est interdit de créer un parti, même difficilement. C'est très difficile d'avoir un journal, c'est très difficile d'avoir l'agrément pour une télévision. Donc il y a tout un climat qui a fait que les Algériens explosent pacifiquement aujourd'hui. Et c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup d'initiatives. L'auditeur a parlé du contenu politique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives pour essayer au moins de dégager des leaders pour ce mouvement. C'est très compliqué en pareille situation parce que les Algériens qui sont sortis dans la rue refusent que d'autres parlent en leur nom, mais il faut à un moment donné qu'il y ait des porte-paroles, qu'il y ait des interlocuteurs.
Ah oui, et même une récupération politique saine. Vous parliez tout à l'heure de l'opposition qui doit profiter pour vous de ce mouvement, Faisal.
Absolument, pour rajeunir ses troupes, pour rafraîchir ses idées, pour, j'allais dire, changer ses logiciels. Donc c'est le moment historique pour changer, pour s'adapter, parce qu'à un moment donné, il faut aussi parler avec le pouvoir, parce que le pouvoir, il y a aussi le président Bouteflika, son entourage, il y a l'armée, etc. Et l'armée qui dit qu'elle est toujours du côté du peuple aura probablement besoin, à un moment donné, de parler avec quelqu'un pour essayer de changer les choses. Et donc effectivement, c'est un grand défi pour les intellectuels et un grand défi pour l'opposition algérienne.
Structurer, avoir des leaders pour avoir un échange construit à Akram Belkaïd.
Alors, sur cette question-là, et pour répondre aussi à la question de votre auditeur,
oui, Reda, oui.
Je serais peut-être plus prudent parce que je pense qu'effectivement, nous vivons une situation un peu paradoxale et contradictoire. Il faut aussi donner le temps au temps. En 3 semaines, depuis le début des manifestations, nous voyons que l'Algérie est capable de produire des choses qu'on n'avait pas identifiées.
C'est ça.
Moi, je repère des discours de jeunes à travers les réseaux sociaux, des écrits de gens qu'on ne connaissait pas et qui soudain surgissent. C'est bien la preuve que lorsque vous libérez le champ politique, les énergies, et l'Algérie compte 42 millions d'habitants, il y a des talents, il y a des gens qui ne s'étaient pas exprimés jusque-là et qui seront capables de s'exprimer. Tout ça pour dire que l'importance d'une transition réussie, c'est certes de ne pas trop tarder, mais c'est aussi de ne pas aller trop vite. Donc, ça veut dire que le souhait qu'on peut avoir, c'est d'avoir une vraie transition où les gens vont pouvoir s'exprimer, vont pouvoir échanger, vont pouvoir s'organiser. Vouloir, si vous le voulez, aller très vite en mettant très vite l'opposition en négociation avec le régime. Peut-être que ça va déboucher sur quelque chose, mais ça risque aussi de laisser sur le côté toute une partie de la population qui ne fait qu'à peine, elle commence à peine à apparaître. Et donc, on pourrait rater des chances, je dirais, pour ce pays. D'où l'importance d'une vraie période de transition, d'où l'importance d'une vraie conférence. Et ce n'est pas le régime qui est contesté qui est capable de mener les deux.
Tout commence maintenant et c'est passionnant. Merci de votre lecture des faits. Akram Belkaïd, journaliste au Monde Diplomatique, aux éditions Talendier, vous publiez dans quelques jours l'Algérie, un pays empêché, en sans question. Faisal Metaoui, merci beaucoup de ce duplex depuis Alger. Je recommande votre site d'information en ligne TSA, tout sur l'Algérie. Et merci chers amis de vos nombreux appels pour éclairer ce sujet. On se retrouve dans un instant, chère Julie, après la poésie hier, on va parler de la dictée.
Mais oui.
C'est, vous êtes fan, non hein, si je ne m'abuse.
De l'orthographe.
Aussi. Ouais. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.